Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser, viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens embraser, viens onction céleste, source de vie, affermis nos cœurs et guéris nos corps, viens Esprit sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, grande joie de se retrouver ce dimanche matin pour la dernière journée de cette retraite paroissiale dans laquelle nous sommes plongés depuis lundi. Et rappelez-vous, le thème de cette retraite, ma vocation, être un vivant. Être un vivant, eh bien, c'est bon de nous se le rappeler en ce dimanche matin. Parce qu'il y a une grâce au dimanche matin. La grâce du dimanche matin, c'est que le tombeau de la mort est vide. Le tombeau est vide. C'est la grâce du dimanche matin, du matin de Pâques, dont nous faisons mémoire chaque dimanche d'une façon toute particulière. Toute particulière. Il est vainqueur, le Christ vainqueur, vainqueur. Comme nous le disions hier, ce qui devait maintenir la mort en sa présence, le tombeau, la croix, ne le maintient pas. Le tombeau est vide au matin de Pâques. C'est la grâce du dimanche matin. Quand nous nous levons le dimanche matin, nous pouvons dire cela. Tu es vainqueur. Ta vie est plus forte que toute puissance de mal et de mort que tu as pris sur toi, que tu as endossé. Et par là même, toi, Jésus ressuscité, eh bien, tu nous ouvres un chemin de vie au-delà de tout ce qui est expérience de mal et de mort dans nos vies. Voyez ? Et ce parcours qui se termine ce matin dans le cadre de cette retraite par la grâce du dimanche matin, eh bien, nous pouvons l'accueillir encore une fois par la grâce de l'Esprit Saint. Seul cet Esprit Saint que nous venons d'invoquer nous donne de pouvoir entrer, accueillir, goûter, savourer, nous laisser relever par ce parcours de Dieu avec les hommes qui vient depuis le fait qu'il leur donne la vie, rappelez-vous le premier jour, depuis le fait qu'il les invite à être branchés sur lui, rappelez-vous Nicodème. Nul ne peut goûter le royaume de Dieu ni le voir s'il ne renaît pas, et renaître d'en haut, c'était de l'eau et de l'esprit. Nul ne peut accueillir non plus, rappelons-nous hier, la réalité de la croix à la lumière de Pâques sans que l'Esprit Saint ne l'éveille à cette réalité pour découvrir que la croix est passage et non finalité, et qu'il y a donc un sens à la célébrer glorieuse qui n'a rien à voir avec le dolorisme, c'était hier, pour aujourd'hui accueillir cette réalité de la résurrection. Et je vous avais dit hier, demain, c'est-à-dire maintenant, je vous parle de la résurrection. Voilà. Mais nous sentons combien c'est l'Esprit Saint. Il est en vous, il est en moi. C'est l'Esprit de Dieu. Nous l'avons reçu d'une façon toute particulière au jour de notre baptême. Nous en avons été marqués d'une façon particulière au jour de la confirmation pour que, peu à peu, goûtant cette présence vivante et vivifiante du Christ au cœur de nos vies, nous en devenions peu à peu là où nous sommes des témoins. Et il n'y a pas un lieu où on ne serait pas appelé à être un témoin. Dans notre paroisse, dans notre unité pastorale, dans notre communauté, si nous vivons en communauté, dans notre famille, sur notre lieu de travail, là où nous sommes, pour les prisonniers en prison, c'est aussi le lieu où ils sont appelés à être témoins, s'ils laissent, comme nous d'ailleurs, l'Esprit Saint les rejoindre, les travailler. Nos frères malades, dans les hôpitaux, nous allons prier spécialement pour nos frères malades. Aujourd'hui, il y a une 22, normalement, me semble-t-il, si j'ai bonne écoute, disons une 20 de frères et sœurs qui, au cours de l'Eucharistie, recevront la grâce du sacrement des malades. Eh bien, ce sera aussi par la grâce de l'Esprit Saint. D'ailleurs, nous imposerons sur chacun d'eux les mains, comme dans tout sacrement, pour que l'Esprit Saint fasse son œuvre de vie dans la puissance du sacrement que l'on célébrera pour eux. Et on le célébrera en Église, parce que tout sacrement fait grandir l'Église entière. Et aujourd'hui, la résurrection. Dans le credo, nous disons « Je crois en la résurrection de la chair ». Nous ne disons pas « Je crois en la résurrection de la viande ». Je crois en la résurrection de la chair. Mais la chair, dans sa compréhension biblique du terme, qui est, si vous le voulez, je crois en la résurrection de la personne dans toute son identité. Voilà, je crois à la résurrection de la personne dans toutes ses dimensions, si vous le voulez. Et donc, la résurrection de la chair, en ce compris, mais pas seulement, en ce compris le corps. En ce compris le corps. Notre foi va jusque-là. Bien sûr, un corps, nous allons le voir tout de suite avec Jésus, un corps glorieux. Un corps qui, s'il est bien appelé à ressusciter comme étant le nôtre, est appelé dans cette résurrection à être transfiguré et non plus douloureux là où mon corps a pu être douloureux ici sur terre. Mais nous tenons cela ensemble. Notre foi va jusque-là. Alors, voyons la résurrection. Je lis avec vous dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20. Le verset 11. Marie de Magdala, était restée dehors, près du tombeau. Elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges, vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Le tombeau est vide. Elle est interpellée par ces anges, « Qui cherches-tu ? » On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Elle se retourne, mais donc elle quitte son regard du tombeau, là où elle venait pourtant à la rencontre de son Jésus, le tombeau qui doit tenir la mort en son sein. Ce tombeau est vide, elle se retourne, elle voit Jésus, il y a donc quelque chose à voir de la résurrection. Elle voit Jésus, mais elle ne sait pas que c'est lui. Bon. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, voyez, Marie de Magdala, elle croit qu'elle a affaire au jardinier. Vous avez déjà vu un jardinier sans corps, vous ? Mais moi, non. Et Marie de Magdala, qui voit Jésus sans le reconnaître, pense avoir affaire au gardien du jardin. La résurrection du Christ n'est pas une vue de l'esprit, voyez ? La résurrection du Christ est quelque chose d'authentique, de réel. Il y a quelque chose à voir. Un gardien du jardin, ce n'est pas un esprit qui plane. Elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, ce qui signifie « maître ». Voyez, à cet appel de Jésus dont elle ne sait pas que c'est lui ressuscité, avec qui elle est en contact, à cet appel de Jésus, par son nom, elle le reconnaît. Ben oui, c'est pas le gardien du jardin, c'est Rabouni, maître. Ce qui signifie maître, Jésus lui dit, ne me retiens pas. C'est intéressant d'entendre ça. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. L'ascension, vous voyez, l'ascension, 40 jours après Pâques. Mais ici nous sommes au matin de Pâques. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi qui m'as rencontré ressuscité, pour toi, Marie de Magdala, pour toi qui as peut-être vécu cette expérience, pas de la même manière que Marie de Magdala, mais du ressuscité dans ta vie. Il faut accueillir cette parole non pas comme un beau récit de l'histoire, certes, mais comme une parole qui nous met en route aujourd'hui. Pour toi, va trouver mes frères. Et voilà que Marie de Magdala est envoyée en mission. Va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et voilà ce qu'il m'a dit. La résurrection du Christ se donne à voir. Et tant d'entre nous chrétiens ne mettent pas leur foi jusque-là. Croire que Jésus est ressuscité jusque dans toutes les dimensions de sa personne, en ce compris son corps. Si peu de chrétiens y croient. Quel dommage. Et croire que parce que Jésus est ressuscité, il pourra aussi me ressusciter jusque dans toutes les dimensions de ma personne, encore moins y croire. Et pourtant, telle est la foi que nous professons de dimanche en dimanche avec nos frères chrétiens. Les apparitions du ressuscité sont fondamentales. Elles sont fondamentales. Notre foi ne s'appuie pas sur une élucubration intellectuelle ou que sais-je, une réflexion théologique ou que sais-je. Notre foi chrétienne s'appuie, s'enracine sur des faits. Retenons ça. Sur une histoire, ça en donne la solidité. Une histoire qui, comme le disait Jésus lui-même, est enracinée dans le Premier Testament, l'Ancien Testament. Et Jésus vient accomplir, mais au cœur d'une histoire, non pas d'un raisonnement. C'est là la solidité de notre foi chrétienne. En ce compris la foi en la résurrection de la chair, c'est non pas parce que ça serait bien de le penser ainsi, c'est parce que c'est ainsi. Et c'est ainsi que Jésus ressuscité s'est manifesté à ses disciples. Et il s'est manifesté à tant de ses disciples. Paul dira à un moment donné, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et si nous, en 2020, nous n'avons pas vu le ressuscité comme Marie de Magdala, nous ne l'avons pas vu comme les disciples d'Emmaüs, nous ne l'avons pas vu manger du poisson grillé avec nous au bord du lac, comme on le verra tout de suite après sa résurrection. Notre foi s'appuie sur ceux qui ont vécu cette expérience de présence du ressuscité, oserais-je dire, en chair et en os. Oh. Alors, après Mais je continue le texte, c'est la suite, verset 19 du chapitre 20 de Saint Jean. Au soir de ce jour, Jésus ressuscité va apparaître encore à ses disciples. Ah oui, sa résurrection, il ne va pas la garder pour lui. Elle est pour le monde. Le soir de ce même jour, qui était le premier jour de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Vous voyez, les disciples, après ce qui s'est passé le vendredi saint, ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur parce qu'ils ont mis leurs pas dans ceux de Jésus. Ça tourne mal pour Jésus. Du coup, ben, eux qui sont les disciples, ils se disent « Ouh, ben, ça risque de tourner mal pour nous ». Ils se rassemblent au Cénacle. Alors, au Cénacle, ils sont bien plus que 12, ils sont à peu près 120. Toutes les portes sont verrouillées parce qu'ils sont dans la peur des Juifs. Et on peut comprendre. Mais ils avaient presque un peu aussi oublié ce que Jésus leur avait dit. Il subira les outrages, les crachats, il souffrira, il va mourir. Et troisième jour, il ressuscitera. Ben nous y sommes. Alors le ressuscité vient visiter ses disciples. Toute porte étant verrouillée, très important, voyez. Vous et moi, nous n'entrons pas dans une maison avec toutes les portes verrouillées, c'est pas possible. À Jésus ressuscité, c'est possible. Voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ressuscite, en effet, dans les dimensions de son être, en ce compris son corps. C'est son corps, mais plus son corps comme avant. Ah, voilà, ça c'est important, il faut tenir les deux, hein. On ressuscite dans toutes les dimensions de notre être, corps compris, mais le corps plus comme avant. Le corps dans un état de gloire qui échappe, si vous le voulez, aux contingences terrestres de toutes les portes qui sont verrouillées, par exemple. C'est pas anodin, ce petit renseignement, que Jésus vient apparaître à ses disciples qui sont enfermés dans les portes qu'ils ont verrouillées. Le ressuscité, il n'y a pas une porte verrouillée qu'il ne puisse traverser sans la démolir, si vous le voulez. Hein? Donc, mais il ressuscite dans son corps, mais son corps plus comme avant. Et il faut tenir les deux. Bon, c'est pas embêtant de tenir les deux. Il y a plein de choses à tenir ensemble quand on est chrétien, à commencer par le fait que Jésus est vraiment homme et vraiment Dieu. Il faut tenir les deux. Jésus ressuscite dans son corps, mais son corps plus comme avant. Toi et moi, nous sommes appelés à ressusciter dans notre être, tout entier, corps compris, mon corps est appelé à ressusciter, mais évidemment pas mon corps comme avant, dans une dimension glorieuse, non plus douloureuse avec les souffrances que j'ai pu avoir de par mon corps aujourd'hui, mais vous savez, il n'y a pas que le corps. Mon psychique, qui peut aussi me faire souffrir du temps de ma vie ici sur Terre, mais il est aussi appelé à ressusciter mon psychique, mais pas mon psychique comme avant, dans une dimension autre, dans une dimension toute transfigurée. Tiens, figurez-vous que l'évangile de ce jour sera la transfiguration. Tout ça, ça se tient. Voyez ? Transfiguration, ça veut dire que nous sommes appelés à plus que ce que nous vivons. Et la résurrection du Christ vient nous le manifester d'une façon impressionnante. Voyez, tout mon être, mon corps, mon psychique, tout est appelé à ressusciter. Alors, ben voilà, Jésus vient, toute porte étant verrouillée, il se tient au milieu d'eux et il leur dit la paix. Soit avec vous. Premier don du ressuscité, la paix. La paix. Si Jésus ressuscité fait ce don de la paix à ses disciples, c'est que cette paix ne va pas de soi. Et Jésus le sait. Et Jésus sait que ses disciples en ont besoin. Tout à l'heure, dans l'Eucharistie, avant même de communier au corps et au sang du Christ, nous communierons à la paix qu'il nous donne. À la paix qu'il nous donne. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la paix qu'il nous donne. C'est le premier don du ressuscité. On en a tous besoin, d'une manière ou d'une autre, à certains moments de la vie plus que d'autres. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. Mais il y a donc quelque chose à voir s'il montre. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Ils sont dans la peur. Et puis, 8 jours après, il reviendra, ils seront toujours verrouillés. Vous voyez ? Donc, ils sont toujours... On ne sort pas de ces peurs en un claquement de doigts. Mais, déjà, à la vue du ressuscité qui vient les rejoindre dans ce qu'ils vivent, ils sont tout à la joie. Et en même temps, ce chemin de sortir de ces peurs, de se déverrouiller de ce qui nous verrouille, est un chemin... Laissez-vous réconcilier par le Christ, c'est le chemin que le ressuscité va opérer en nous. Mais déjà la joie est là. Vous savez, la joie du chrétien, c'est pas la joie d'une vie sans difficulté. Si nous devons attendre la vie sans difficulté pour être dans la joie, il y a beaucoup de chances que nous ne le soyons jamais. La joie du chrétien, c'est cette rencontre du ressuscité qui vient le visiter au cœur de ce qu'il vit, fût-ce les peurs qui nous enferment, fût-ce la maladie, voilà, la joie. Et ça, c'est appelé à débloquer en nous une joie profonde, même si cette joie profonde ne se traduit pas toujours par un sourire, on n'a pas toujours la banane. Hein. Mais la joie du chrétien n'est pas ce qu'on est appelé à vivre quand on goûtera la vie sans difficulté. Non, non, c'est ici et maintenant que nous sommes avec les disciples verrouillés dans leurs peurs. Nous avons nos peurs peut-être aujourd'hui, nous avons nos difficultés, nos souffrances. J'ose croire que pour nos frères et sœurs malades qui recevront tout à l'heure une visitation particulière du Seigneur dans la puissance du sacrement de malade, il y a quelque chose d'une joie intérieure qu'ils pourront goûter. Voyez. C'est une joie. Et puis le ressuscité continue à leur parler. Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. C'est que c'est pas si facile d'accueillir la paix du ressuscité s'il a besoin de le dire 2 fois. Et que 8 jours après il revient et il le redira 3e fois. Vous voyez, ça nous console. Nous sommes un peu comme les disciples de l'époque. Accueillir la paix de Dieu dans nos situations de vie qui sont ce qu'elles sont, avec leur haut et leur bas, c'est un chemin. Et puis le ressuscité, à ses disciples qui sont prisonniers de leur peur, va leur dire, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ah voilà. Je vous envoie. Et il dit ça à ses disciples qui sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais donc, ceux à qui vous les remettrez, ils seront remis. Première mission des disciples, voilà, remettre les péchés. ne fait pas de célébrer l'Eucharistie la première mission. Remettre les péchés. Et on comprend, puisque c'est la première mission du Christ. Alors ses disciples, qu'il visite après sa résurrection, fortifiés de l'Esprit Saint, auront la mission, comme lui, de remettre les péchés. C'est-à-dire d'être témoins de la miséricorde de Dieu. Je ne reviens pas ici sur ce que je vous ai dit de la miséricorde de Dieu qui n'efface pas la justice. Mais néanmoins, être témoin de la miséricorde de Dieu. Voyez, c'est fondamental. Alors voyez, Thomas, par exemple, n'était pas là à ce moment-là. Et quand il revient, les autres disciples lui disent l'expérience qu'ils viennent de vivre. Voyez, nous avons vu le Seigneur, c'est la suite du texte. Mais Thomas leur répondit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il y a quelque chose de l'expérience du ressuscité, quand nous l'avons vécu, que nous pouvons partager, et en même temps, qui est difficile de partager. Thomas, voilà, dont le nom Didyme signifie jumeau. Ah, c'est peut-être un peu mon jumeau, peut-être un peu le vôtre, que sais-je. 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Vous voyez, c'est consolant, quoi. Jésus, 8 jours plus tôt, les a déverrouillés, les a envoyés, il est venu les rejoindre dans leur peur, mais ils ne sont pas encore vraiment partis. Hein. Ils ont reçu l'Esprit Saint, et puis c'est un chemin. Les portes sont toujours verrouillées. Jésus vient, il se tient au milieu d'eux, il leur dit quoi? Allez-y. Merci, la paix soit avec vous. Voilà, c'est son premier cadeau. Paix soit avec vous. Et puis, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Mais il y a donc quelque chose à enfoncer, quoi. Cesse d'être incrédule et deviens. J'aime beaucoup ce deviens, vous voyez. Parce que deviens, c'est progressif. Deviens un homme de foi. Voilà. Cesse d'être incrédule. Et c'est peut-être ce qu'il nous dit à chacun aujourd'hui. Et deviens un homme de foi. Fais des pas sur ce chemin de ta foi. C'est très beau ce deviens. Deviens un homme de foi. Thomas lui répondit. Mais voyez, il y avait le Seigneur, plus exactement Jésus ressuscité, accueille le chemin de foi qui est celui de chacun. Il accueille ce chemin de foi qui est celui de Thomas. Et à l'heure de Dieu, dans la vie de Thomas, Thomas a dû encore attendre 8 jours. Hein ? Entre le moment où ses copains lui ont dit qu'ils avaient vu le ressuscité mais qu'ils n'y croiraient pas tant qu'ils ne verraient pas, c'est pas claque que Jésus revient. Il y a une heure de Dieu dans le chemin de la vie de chacun. Il y a une heure de Dieu dans le chemin de la vie de chacun. J'y crois dur comme fer à ça. Cette heure, c'est pas moi qui la décide. C'est l'heure de Dieu. Et 8 jours plus tard, ce sera l'heure de Dieu dans le chemin de foi de Thomas. voyez, comme par exemple pour celui qu'on appelle le bon larron, l'heure de Dieu, pour lui, dans son chemin de vie et de foi, ça a été à moins une. Et vous savez, ma foi va même jusqu'à croire qu'il y a une heure de Dieu qui est possible pour ceux qui, même à moins une, n'ont pas reconnu le ressuscité et donc qui sont morts, que l'on a conduit au cimetière sans qu'ils ne connaissent la foi. Eh bien, j'ai cette foi, moi. Il y a une heure de Dieu pour ces hommes et pour ces femmes. Et vous savez, c'est ce que nous disons. En d'autres mots, chaque dimanche, en professant le credo, je crois en Jésus qui est descendu aux enfers, au pluriel. C'est pas l'enfer. Ne faisons pas d'amalgame. Aux enfers, traduisez au séjour des morts. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, achetez le catéchisme de l'Église catholique dans sa version complète, rien que pour la page, une seule page, qui nous parle de Jésus qui est descendu aux enfers, ça vaut le prix. Parce que ça n'a pas de prix. La descente de Jésus aux enfers, je vous dis en deux mots, hein. Jésus n'a pas accompli la phase ultime de sa mission messianique, c'est-à-dire de salut, tant que, entre sa mort sur la croix et le matin de Pâques, parce que c'est à ce moment-là qu'il vit ça, tant qu'il n'est pas descendu au séjour des morts, mis à mort selon la chair, son corps est dans le tombeau jusqu'au matin de Pâques, vivifié selon l'esprit, il descend visiter tous nos défunts de tous les temps. Et pourquoi ? Pour que ceux qui entendent la parole du Fils de Dieu, même là, vivent. Je vous disais, pendant cette retraite, Dieu est indécrottablement du côté de la vie. Il y a une heure de Dieu aussi, jusque-là. Je ne suis pas gêné de vous dire que j'étais déjà prêtre depuis quelques années quand j'ai découvert le sens profond de cet article du credo qu'avec mes frères chrétiens, je prie depuis 40 ans. Il est descendu aux enfers, au séjour des morts. Il y a encore une heure de Dieu. Et c'est pourquoi il est si important que nous prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, comme eux sont appelés à prier pour nous. C'est la communion des saints. Je ferme la parenthèse. C'est ce que Jésus a vécu. Je la réouvre, la parenthèse. C'est ce que Jésus a vécu le samedi saint. C'était sa mission ultime. Tout le monde croit que tout est fini et lui bosse la dernière étape de sa mission. Dernière étape de sa mission. Lisez cette page, si vous le voulez, du catéchisme de l'Église catholique. Une page, ça se lit vite. Mais c'est du condensé. Et vous serez encore davantage émerveillés de la grandeur et de la beauté de la foi et de l'amour de Dieu pour l'être humain jusque-là. Revenons à Thomas et à Jésus. Cesse d'être incrédule, devient un homme de foi. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Voilà qu'il fait sa profession de foi. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Voyez. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Et là, vous vous rappelez qu'il y avait un des disciples qui, à un moment donné, a couru jusqu'au tombeau et il se mit à croire quand il vit qu'il n'y avait plus rien à voir dans le tombeau. Vous savez comment s'appelle ce disciple ?
Jean.
Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Jean croit quand, à l'approche du tombeau, au matin de Pâques, il voit qu'il n'y a plus rien à voir. Alors il croit. Je vous lis à l'affilée ce texte-là qui est très beau. C'est dans le chapitre 20 de Saint Jean, au verset 1er. Le premier jour de la semaine, à l'aube, je vous ai dit, il y a une grâce du dimanche matin. Ce n'est pas la même grâce que le dimanche après-midi ou que le dimanche soir. C'est le dimanche matin, à l'aube. Le tombeau, il est vide. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit ainsi que l'autre disciple et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche, il voit les bandelettes qui étaient là, posées. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre, qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, faut suivre, hein, l'autre disciple, maintenant c'est Jean. Hein, c'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et crut. Il vit qu'il n'y a plus rien à voir. Il vit et crut. En effet, il n'avait, au pluriel, pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Vous voyez, Jésus se relève d'entre les morts. Et là, entre le vendredi saint, 15h, le matin de Pâques, Jésus, il ne ressuscitera pas de nulle part, voyez. Il ressuscite, il se relève d'entre les morts. Ça sous-entend qu'il est allé les visiter pour leur porter cette parole de salut, parce que même là, il y a une parole de salut à donner. Et c'est ce qu'il fait. Merci Seigneur de nous aimer jusque-là. Pour ceux qui ne sont pas encore vraiment... à qui ça fait encore des problèmes que Jésus soit ressuscité dans toutes les dimensions de son être, et puis que nous aussi on est appelé à ressusciter dans toutes les dimensions de notre être, eh bien, allons-y, prenons une autre scène. Où est-ce qu'on va la prendre? Il y en a plusieurs, hein. Par exemple, au chapitre 21 de Saint Jean, verset 1. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifeste. Simon-Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin. Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'est lui. Vous voyez, ça c'est très beau. Dans tous les récits d'apparition du ressuscité, Jésus apparaît, mais c'est progressivement qu'il se donne à reconnaître. Nous avons vu ça avec Marie de Magdala, nous voyons ça avec les disciples enfermés au Cénacle, avec Thomas, avec les disciples d'Emmaüs, ici avec les disciples au bord du lac. Ils ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de gros poissons, plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise. Il y a bien quelqu'un qui a dû faire ce feu, hein. Ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit, apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta donc dans la barque. Il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez déjeuner. Vous avez déjà vu un esprit ou une énergie vous dire, viens déjeuner? Venez déjeuner. En plus, le feu de braise est prêt. Aucun des disciples n'osait lui poser la question, qui es-tu? Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient, il prend le pain, quoi. Et il le leur donne. Et il fit de même avec le poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Troisième fois. Et puis, changeons un peu d'évangile, dans Saint-Luc. Allez, encore une dernière, avant la suite. Tout ce que je ne vous dis pas maintenant, je n'aurai plus que l'homélie. Voyez, donc, 24. Saint-Luc, chapitre 24, verset 36. Encore une rencontre de Jésus ressuscité. Et voyez, c'est pour que nous entrions, je vais employer un beau mot là, que nous entrions dans l'incarnation de la résurrection. Voyez, pour ça que je parcours avec vous. La résurrection n'est pas comme ça. On pourrait dire la résurrection est incarnée d'une certaine manière. Voyez, tous ces récits viennent nous aider à l'accueillir, à y entrer. Donc encore un. Luc 24, verset 36. Comme ils parlaient ainsi, Jésus fut présent au milieu d'eux. Et il leur dit, merci, la paix soit avec vous. Effrayés et remplis de crainte, alors là pour le coup, ils pensaient voir un esprit. Et il leur dit, Jésus leur dit, quel est ce trouble? Et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Puis en nous, il y a peut-être ça aussi, hein, maintenant que je suis en train de vous parler de la résurrection de la chair. Oh, il y a peut-être des objections qui se lèvent de ci, de là. Et puis c'est très bien. Alors, ça nous rapproche des disciples de l'époque, on n'est quand même pas d'une patte différente. Hein? Pourquoi ce trouble? Pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme sous l'effet de la joie, il restait encore incrédule. Mais c'est tellement grand, quoi. Mais c'est vrai, hein. C'est tellement grand, non? À la limite, c'est incroyable. Vous comprenez? C'est incroyable. Il y a une émission qui s'appelait jadis Incroyable, mais... Voilà, je ne suis pas le seul à avoir connu cette émission-là. Hein? Mais nous y sommes, là. C'est l'incroyable. Et puis, c'est vrai. Oh. Comme sous l'effet de la joie, il restait encore incrédule et comme il s'étonnait, ah ben Jésus leur dit... « Avez-vous ici de quoi manger ?» Et ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea sous leurs yeux. Oh. Voyez, et en même temps, tous ces disciples qui ont connu Jésus ne l'ont pas d'emblée reconnu. Ça a été un chemin. Il ressuscite, c'est lui, mais c'est plus lui comme avant. Tu es appelé à ressusciter, ce sera toi. Et ce ne sera plus toi comme avant, parce que ce sera toi dans une condition de gloire, de gloire. Voyez ? De gloire. Mais ce sera toi. Alors, j'ai 5 minutes pour atterrir. Donc, voyez, la résurrection, ce n'est pas une réanimation. Hein? On n'est pas comme dans ce qui s'est passé, par exemple, avec Lazare. Il y a un abus de langage dans la parole ou dans les titres que l'on met dans la parole de Dieu, résurrection de Lazare. Non, non, la fille de Jaïr, non, non, ils ne sont pas entrés dans un autre état. Jésus, lui, entre dans un autre état. Nous ne sommes pas dans une réanimation. Voyez ? On ne revient pas en arrière. La vie chrétienne est tendue vers un avant. Regardez cette splendide croix à ma droite et à votre gauche. C'est la croix et les signes de tout ce qu'on a dit hier, de la croix qui est aussi souffrance, douleur, et c'est la réalité. Et en même temps, regardez le verre qui transparaît dans cette croix. C'est la vie, c'est la vie, voilà. C'est la vie déjà qui pointe. Belle croix glorieuse ici, dans cette chapelle. Enfin, ce n'est pas une chapelle. Dans cette église. On ne va pas en arrière, on ne revient pas en arrière, on va de l'avant et la croix, elle est appelée à être traversée, non pas fouillée, mais endossée, assumée, traversée avec le Christ, tendue vers l'avant, tendue vers un chemin de vie, un chemin de résurrection. Voilà, c'est ça le chemin du chrétien, c'est ça la vie du chrétien. On ne revient pas en arrière. Et c'est pourquoi, vous voyez comment les liens se font. C'est pourquoi la résurrection à laquelle nous croyons est incompatible avec la réincarnation. La foi chrétienne est incompatible avec la réincarnation. Jésus s'est incarné une et une seule fois pour toutes. Sa vie tendue vers l'avant et on ne revient pas pour recommencer un cycle. Non, tendue vers l'avant. C'est ce qui fera dire à Jean-Paul II dans un rassemblement de jeunes, on ne vit pas à l'essai, comme si on pouvait recommencer après. Hein. Vous voyez, on ne vit pas à l'essai, on n'aime pas à l'essai, on ne meurt pas à l'essai. La vie est unique, elle est une. Et on n'entre pas dans une autre vie, mais dans une vie sous un autre, dans la même vie sous un autre jour. C'est pas pareil. Quand j'étais dans le sein maternel, mais c'était déjà Jean-Marc, avant ma naissance. Et puis, il y a quand même eu une sérieuse transfiguration de mon chemin de vie entre le moment où j'étais dans le sein de ma mère et puis le moment où je suis né. Tout ce qui s'était formé progressivement dans les entrailles de ma mère, eh bien, s'est mis peu à peu à fonctionner, entre guillemets, de la manière dont c'était appelé à fonctionner. J'avais des poumons qui se sont développés pendant ce temps et qui, à un moment donné, se sont mis à fonctionner. Et ça a peut-être fait mal au début, parce que c'était un peu la mise en route. Je crois qu'il faut qu'on crie quand on est, si j'ai bien compris. Parce que ça veut dire que, quelque part, hop, les poumons se mettent en marche pour ce pour quoi ils sont faits. Mais je ne vis plus de la même manière après que je sois né que de la manière avant que je sois né. Mais en même temps, je ne suis pas devenu un autre. Je suis devenu moi-même dans une autre étape de ma vie qui est la même. Mais c'est transposable au moment de la mort et de la résurrection. Ce n'est pas une autre vie, c'est une vie, c'est ma vie appelée à être vécue autrement. Et c'est ce que nous célébrons en particulier dans chaque Eucharistie. Je vous invite à être attentif à la prière eucharistique dans l'Eucharistie. Vous savez, c'est la prière où à un moment donné on va consacrer le pain et le vin. Soyez attentifs aux paroles qui reprennent tout ce chemin du mystère pascal jusqu'à la résurrection. Voilà. C'est ça que nous célébrons. C'est le cœur de notre foi. Et voyez, les chrétiens, pardon, depuis le premier siècle, on sentit que la résurrection du Christ les appelait à se rassembler le dimanche. Vous savez, aujourd'hui, le dimanche, c'est le jour férié, c'est bien. On n'a pas dû prendre congé, quoique, hein, il y a des gens qui travaillent le dimanche. On n'a pas dû, en général, disons, on n'a pas dû prendre congé pour venir. Au début de l'histoire de l'Église, il n'y avait pas... Les chrétiens qui sentaient cette nécessité de se rassembler, ils se levaient très tôt le matin pour se rassembler, célébrer la fraction du pain, avant d'aller travailler, parce que c'était ce jour où il y avait cette intuition qu'il était bon de se rassembler pour faire mémoire justement, du Christ et du salut qu'il apporte, de sa mort, de son amour, de sa mort et de sa résurrection, faire mémoire. Alors, vous voyez, depuis le premier siècle, les chrétiens se rassemblent le dimanche pour faire mémoire. C'est pas pour célébrer un souvenir. Ça serait une pièce de théâtre si on célébrait un souvenir. Pour faire mémoire, pour rendre actif aujourd'hui, source de vie, ce qui s'enracine dans un événement historique bien précis il y a plus de 2000 ans. faire mémoire, c'est rendre présent aujourd'hui les fruits de salut, de la passion d'amour et de souffrance du Christ et de sa résurrection. Rendre présent aujourd'hui les fruits. Voyez. Alors là, à nouveau, le dimanche, on pourrait le vivre comme une obligation dominicale. Moi, j'aime pas ce vocabulaire. Quand je lis la Bible, je vois combien Dieu ne cesse de frapper à la porte de l'homme, mais combien il laisse l'homme faire son chemin. Et en même temps, il a soif que l'homme avance. Je préfère de loin dire, le dimanche, il n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire à celui qui veut vivre son chemin de la grâce du ressuscité. Il est nécessaire, il n'est donc pas facultatif pour celui qui veut goûter. Voyez, c'est la parole à Nicodème. Tu veux goûter le royaume de Dieu? Tu veux voir combien il te porte, il te transforme dans ton chemin de vie déjà bien ici-bas sur terre? Eh bien, il faut naître de l'eau et de l'esprit pour ça. Oui, c'est nécessaire. Et Jean-Paul II dira du dimanche, le dimanche, c'est l'âme de toute la semaine. L'âme de toute la semaine. Voilà. Et je regarde cette croix encore, que je photographierai tout à l'heure après la messe, parce qu'elle me parle beaucoup. Et, eh bien oui, voilà ce que nous allons célébrer tout à l'heure. Dans cette Eucharistie, dans 20 minutes. Voilà. Passion d'amour, passion de souffrance du Christ, descente dans la mort, et nous prierons pour nos défunts au cours de l'Eucharistie comme au cours de toute Eucharistie, et en même temps, accueil du ressuscité, cette croix est verte, elle est glorieuse, accueil du ressuscité, oui, que nous allons accueillir sous les espèces du pain et du vin consacrés, non pas pour nous rappeler qu'il y a 2000 ans le Christ a donné sa vie pour l'humanité, mais pour accueillir le don que nous fait le Christ aujourd'hui de sa vie, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection pour l'humanité d'aujourd'hui. Dans chaque Eucharistie, c'est le salut qui se donne pour l'humanité d'aujourd'hui. C'est pas un souvenir, c'est actuel. Faites attention à la prière eucharistique. Je prendrai la prière eucharistique 3 qui s'exprime en bonne partie au présent. Au présent. Je recherche rapidement pour en terminer là. Mais voilà, le présent. Oh, je ne retrouve plus, c'est comme toujours. Hein. Voilà, voyez, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent, ici et maintenant, qu'elles deviennent le corps et le sang. On ne célèbre pas quelque chose qui nous rappelle que, on célèbre quelque chose qui vient ici et maintenant, dans la puissance de vie qu'apporte le Christ pour l'humanité. Voilà. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, c'est ce que nous célébrons le dimanche. Je ne sais pas développer ici, mais avant cette grande prière, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils. Ce que nous célébrons ici, maintenant, dans l'Église, en célébrant l'Eucharistie, est exactement, est, daigne y reconnaître celui de ton Fils. se vit ici et maintenant, dans la puissance de l'Eucharistie, ce qui s'est vécu au moment du sacrifice initial du Christ. Quand nous serons remplis de son corps, nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, etc., accorde-nous. Voilà. Et maintenant, regardez tout le présent, maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice, c'est le don d'amour qui se vit là de Dieu pour l'humanité, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. On ne dit pas le sacrifice qui nous a réconciliés, un vieux truc du passé, non, non, le sacrifice qui nous réconcilie aujourd'hui, le 8 mars 2020, ce sacrifice nous réconcilie avec toi, étant au monde entier, affermi la foi, etc., etc. Ce que nous allons célébrer maintenant est très grand et nous allons nous y préparer. Ô Seigneur, envoie ton esprit qu'il renouvelle la face de la terre. Qu'il renouvelle. Une dernière fois, et cette fois-ci la terre que nous demandons au Seigneur de renouveler, c'est chacun notre vie, notre histoire. C'est aussi une terre que le Seigneur renouvelle aujourd'hui, si nous nous ouvrons à cette présence de salut qu'il nous apporte. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. À tout de suite pour la célébration de l'Eucharistie.